Bonjour Yves Jégo.
Bonjour.
La Turquie d'abord, pour commencer. Recep Tayyip Erdogan, réélu président et dès le premier tour, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
C'est le choix des Turcs. Sur ce sujet, il y a au moins un avantage, c'est qu'on connaît le président turc, donc on
Oui, on
sait
le connaît.
quel est son caractère, sa façon d'agir. Moi, je veux noter quand même que le représentant de l'opposition a réussi quand même à passer la barre des 30%, ce qui est un signe. Mais on voit bien comment ce pays se donne tout entier au président Erdogan et comment le peuple turc choisit le chemin qui est ainsi tracé, il faut que l'Europe fasse avec.
Est-ce que c'est un bon partenaire, justement, pour l'Europe? On a vu qu'il y a eu cet accord avec la Turquie, hein, en mars 2016 concernant les migrants en échange d'une aide financière.
J'ai du mal à le qualifier de bon ou de mauvais. Je pense qu'il y a eu effectivement cet accord sur la question des migrants. Je pense qu'il y a eu des moments de tension aussi avec l'Europe. Je pense que c'est un homme de caractère qui veut défendre une forme d'indépendance et de force turque et de faire de son pays un pays qui compte dans le secteur. Au fond, vous savez, c'est pas dans le grand jeu international autant connaître celui qu'on a en face et savoir comment il réagit. Et après, il faut s'adapter. C'est ça le pragmatisme. Il y a une communauté turque importante en France, qui d'ailleurs, à mon sens, est très pro-Erdogan, a voté très largement pour ce président turc. Il faut qu'on essaye aussi de comprendre et d'analyser, au-delà du ressenti qu'on peut avoir, des interrogations qu'on peut avoir sur les libertés en Turquie, sur la montée du fait religieux. Il faut qu'on essaye de mieux comprendre ce pays, parce que c'est un de nos voisins, et il faut comprendre ses voisins, et si possible s'entendre avec ses voisins.
Alors Yves Jégo, parlons de nos autres voisins avec ce mini sommet européen à Bruxelles sur la crise migratoire. Aucun accord à l'issue de cette réunion à Bruxelles hier. Est-ce que l'Europe est en train de se disloquer sur cette question?
Je crois que l'Europe est en train de mourir sous nos yeux. Et qu'au fond, la grande idée d'une Europe capable de s'unir, capable de gérer ensemble un certain nombre de politiques est en train de mourir.
C'est la mort de l'Europe.
Elle n'est pas encore morte, mais elle est en train de mourir sous nos yeux. Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait une conscience forte de cette disparition. La question qui interrogeait ce mini-sommet d'hier est la question migratoire. On sait bien que dans le siècle qui vient, ça va être le sujet essentiel du siècle. Et que comme l'Afrique n'a qu'un voisin, c'est l'Europe. L'Afrique n'a qu'un voisin, c'est nous. Et que la pression démographique africaine fait que la question migratoire sera majeure dans le 21e siècle, que l'Europe peine autant à se parler, à se mettre d'accord, à envisager des solutions un peu ambitieuses et bien sûr teintées d'humanité, me semble un signe clinique d'une mort de l'Europe qui approche et qui, moi, ne me réjouit pas. Je pense qu'il faut un sursaut européen pour qu'on réussisse à sauver ce dont on a hérité de nos pères, c'est-à-dire une union politique et une union continentale.
Alors, vous nous annoncez la mort prochaine de l'Europe.
Non, je la crains.
Vous la constatez.
Je la crains.
Oui, vous la craignez.
Je crois que l'Europe est en train de mourir sous nos yeux si nous ne faisons rien.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire si nous
faisons? D'abord, il faut que les peuples, les opinions prennent conscience de cette réalité. Il faut que les dirigeants soient à la hauteur.
Mais est-ce que les peuples, après
défi.
Tout, ne sont pas indifférents à ce qui est en train de se passer pour l'Europe? On sent bien une défiance des peuples à l'égard de ce qu'on appelle les élites européennes.
Du machin, oui. Mais des conséquences de l'absence de machin, non.
Ouais.
Parce que s'il y a plus d'Europe, ce sera l'égoïsme national, ce sera chacun derrière ses frontières, ce sera des phénomènes qui n'auront pas disparu. La question écologique, même sans l'Europe, elle existera toujours. La question de la concurrence économique mondiale, même sans l'Europe, elle existera toujours. La question de la pression migratoire, même sans l'Europe, elle existera toujours. Donc au fond, si on s'occupe pas de l'Europe, eh bien la disparition de l'Europe fera qu'on aura à s'occuper de problèmes infiniment plus complexes à régler et infiniment plus difficile à régler. Donc je crois qu'il y a un discours, j'espère que la campagne pour les élections européennes de 2019 sera à la hauteur, qu'on ne tombera pas dans une campagne politicienne franco-française, qu'on verra les enjeux et l'enjeu humain concernant la question migratoire, il est majeur. L'Europe n'est pas à la hauteur de ce défi. L'Europe laisse mourir à ses portes sous ses yeux des milliers de personnes et au fond est incapable de s'organiser pour gérer les choses avec dignité et humanité. Voilà, moi ce que j'espère, c'est un électrochoc, je suis pas sûr qu'il arrive.
Vous dites l'Europe, mais est-ce que la France est suffisamment cohérente pour ce qui est de l'accueil des migrants?
Je crois que la France, elle a pris sa part. C'est le deuxième pays en termes d'accueil, je crois. Et j'ai
Après, si on fait, ça dépend de comment on lit les chiffres. Enfin, si on lit proportionnellement à la population, on peut dire qu'il y a 600 demandes d'asile acceptées par tranche d'un million d'habitants.
On peut avoir
c'est
une,
pas énorme non
on
plus.
On peut avoir une vision statistique sur ce sujet. Simplement, elle n'est
quand
pas...
on dit prendre sa part, ce qui elle, est, elle ce qui est le discours du gouvernement.
Elle n'est pas absente de ce sujet. Elle n'est pas comme certains pays de l'Est de l'Europe à dire on ne veut rien.
Elle ne ferme pas totalement ses portes.
On ne veut rien faire sur ce sujet. Je crois vraiment que le président de la République, dans ses différents discours, j'ai encore à l'esprit le discours d'Aix-la-Chapelle récemment, a une vision forte, mais que cette vision forte, elle peut pas être seulement franco-française. Il faut la partager, il faut convaincre les Allemands, il faut convaincre les Italiens, il faut convaincre les Espagnols. Et moi, je pense qu'une des portes de sortie dans la mécanique, au-delà de la prise de conscience, c'est des politiques volontaires de pays qui s'allient sur la question migratoire, par exemple, pas à 28, mais à 5, à 6, à 7, à 8, et qui décident ensemble d'une politique.
Et qui décident ensemble d'être quoi ? D'être généreux avec les migrants qui arrivent ?
Qui décident ensemble, par exemple, de créer ces fameux hotspots dans les pays voisins où on pourrait gérer toutes les demandes d'accueil de façon digne et de façon organisée. Moi, je ne me résous pas à penser qu'au XXIe siècle, on peut laisser errer sur nos routes, sur nos cols, dans nos montagnes, des gens dans des situations épouvantables, qu'il faudrait mieux les accueillir dans des lieux où ils soient sécurisés et on gère les questions migratoires de façon digne.
Avec des routes légales.
Avec des routes légales, avec ce qu'on appelle les hotspots. On ne veut pas dire le mot camp et chacun comprend bien pourquoi, mais des lieux d'accueil sécurisés où chacun peut être dignement accueilli, nourri, protégé et on gère les questions migratoires, les questions de demande de droit d'asile des différents pays d'Europe. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être 28 pour faire ça. On peut faire ça à 5, à 6, à 7. On peut décider d'y mettre les moyens voulus. On peut aller négocier
avec la Turquie,
Emmanuel
Macron et Angela
avec
Merkel,
le Maghreb,
des accords,
avec un certain nombre de pays pour avoir des accords et pour avancer sur cette question-là.
Faut oublier l'Europe, malgré elle.
Non, il faut à l'intérieur de l'Europe dire les plus convaincus vont travailler ensemble. Et puis au fond, ceux qui ne le sont pas, on l'a vu avec les Britanniques, on pourrait le voir demain avec d'autres pays, bien pourquoi ne sortirait-il pas de l'Europe ? Chacun vit sa vie, il n'y a pas d'obligation à être dans l'Europe, mais il y a une obligation à ce que l'Europe fonctionne.
Alors Yves Jégo, on a parlé de la vie de l'Europe, on va parler de votre vie personnelle. Parce
ce qui
que
est beaucoup moins intéressant.
Mais c'est un fait politique malgré tout. Vous êtes député, vous avez été ministre, et il y a tout juste une semaine, vous avez annoncé que vous alliez quitter la vie politique le 15 juillet prochain. La vie politique nationale dans un premier temps, la vie politique locale d'ici 2 ans. Qu'est-ce qui ne vous plaît plus dans cette vie ?
Il y a plein de choses qui ne me plaisent plus, puis il y a plein de choses qui peuvent me plaire encore, mais au fond la question elle est pas là, elle est d'abord, je crois que la place est aux jeunes générations, ça fait 28 ans que je fais de la politique, je pense que les Français aspirent aussi à avoir des représentants différents, des nouveaux visages, et j'ai préparé une génération sur le terrain qui peut me succéder, et puis le constat que j'ai, je suis aujourd'hui effectivement député, vice-président de l'Assemblée nationale, j'ai une forme de confort, de vie sociale et de reconnaissance appréciable, mais au fond, j'ai le sentiment que l'énergie que je déploie produit assez peu d'effets. Et qu'au fond, la chose politique, la structure politique, l'institution politique, le Parlement en l'occurrence, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour un tout petit peu d'effet
sur la réalité.
C'est terrible
ce que vous dites. Ça veut dire que ça ne marche pas ?
Non, ça s'appelle la démocratie et sa complexité.
Ah oui. C'est compliqué, c'est ça.
Ça s'appelle que le fait que quand vous êtes un parmi 577, c'est pas vous qui décidez seul. Et je me dis que dans les années qui viennent, peut-être qu'en déployant la même énergie, j'aurai plus d'effets sur l'intérêt général. Je vais aller diriger une entreprise qui lutte contre le réchauffement climatique par de l'innovation en matière de transition énergétique. Je me dis que là, je serai utile à des grandes causes. Celle de la transition énergétique, elle est majeure, voilà, et peut-être plus efficace
que je le suis aujourd'hui
à l'Assemblée nationale.
Mais en creux, ça veut dire inutile à l'Assemblée ou un Parlement qui ne fait pas son boulot.
Je ne veux pas partir avec de l'amertume, avec des critiques, mes collègues parlementaires...
Quand même, vous faites un constat qui est assez
C'est un
accablant.
Constat qui est celui de la Ve République. D'abord, le Parlement n'est pas le lieu du pouvoir en France sous la Ve République, c'est l'exécutif. Ouais. Je crois n'apprendre rien à personne. Et c'est un deuxième constat qui peut-être méritera que les parlementaires demain, les autorités, donnent plus de pouvoir au Parlement, parce qu'effectivement on a ce sentiment, et je ne suis pas le seul à le partager, qu'on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Moi, je veux en tirer une conclusion personnelle. Après 28 ans de vie politique, je crois aussi avoir beaucoup donné et pouvoir faire d'autres d'autres choses tout aussi exaltantes et peut-être même plus.
Bon, vous souhaitez quand même bon courage aux autres.
Je ne crache pas dans la soupe, je ne crache sur personne. Je pense qu'il faut un Parlement et je pense que mes collègues parlementaires ont aussi conscience qu'il faut faire bouger les choses.
Yves Jégo, député de Seine-et-Marne pour encore 2 petites semaines quasiment et premier vice-président de l'UDI était l'invité de RFI ce matin.